Je vais essayer de parler lentement. Alors, première question, vous arrive-t-il d'être inquiet? Qui ça arrive d'être inquiet? Soyez pas gênés. Oh, c'est bien, même les deux mains. Je le sais que cela vous arrive et que cela m'arrive à moi aussi, mais nous ne devrions pas, parce que s'inquiéter, ce n'est pas juste une faiblesse passagère, nous dit la parole, mais c'est aussi un péché. J'aimerais parler aujourd'hui de ce sujet et voir avec vous comment nous pouvons remporter la victoire sur l'inquiétude. Et par rapport au sujet de l'inquiétude, le Seigneur Jésus, nous connaissant très bien, va emmener un enseignement extraordinaire dans Matthieu chapitre 6, que je vous invite à tourner. Matthieu chapitre 6, lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien ». Et Paul rappelle aussi dans Philippiens chapitre 4, les versets 5 et 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, hein, faites des prières, des actions de grâce à Dieu », et ainsi de suite. Alors, on vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34 que nous allons lire ensemble, dans une version un petit peu différente, pour que les nouvelles personnes, en fait ceux qui ne sont pas familières avec l'Évangile, puissent comprendre en fait tous les termes. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Et là, on doit être attentif puisque c'est le Seigneur Jésus qui parle. Verset 25. Et le verbe « inquiéter » ici signifie en fait avoir une pensée anxieuse. N'ayez pas de pensée anxieuse, n'ayez pas de pensée qui divise votre esprit. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous, par ses inquiétudes ou par le souci qu'il se fait, parvient à prolonger un peu de la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéteriez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements, et pourtant, je vous dis que même Salomon, avec toute sa richesse et avec toute sa gloire, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre confiance est faible, gens de peu de foi. Comme votre confiance, ça, c'est ce que ça veut dire, hein, dans le français courant, gens de peu de foi, c'est que votre confiance est faible. Et combien le Seigneur avait besoin de rappeler ces choses de base à ses disciples. Et combien il est bon aussi de rappeler, d'abord aux jeunes chrétiens, à ceux qui sont chrétiens depuis moins d'un an, qu'il y a un combat spirituel qui existe. Et que ce combat, c'est de vous amener à faire confiance à tout ce que vous voyez, au message qui est véhiculé dans le monde, plutôt qu'au message de la parole de Dieu, et de garder vos yeux fixés sur celui qui est là-haut et qui revient bientôt. Il y a un combat spirituel. L'inquiétude, c'est généralisé dans le monde. Les gens ont peur. Les gens ont peur qu'à tel point... Et c'est une guerre. C'est une guerre spirituelle que le monde livre dans l'esprit des gens. Il y a combien de gens qui prennent un fonds de pension à partir de 20 ans pour être sûr qu'à 65 ans, ils vont être capables de vivre décemment sans savoir s'ils vont être encore en vie à 65 ans. Il y a combien de gens qui prennent une assurance vie très jeune pour payer toute leur vie. Ça sera peut-être le double de ce que leurs funérailles vont coûter. Mais dans le but, c'est toujours dans le but d'éviter qu'on manque de quoi que ce soit. Et qu'est-ce que ça fait? C'est de l'inquiétude, parce qu'écoutez, si je participe à mes fonds de pension dès l'âge de 20 ans, et qu'à un moment donné, eh bien, mon usine risque de fermer, eh bien, je vais être inquiet. Je vais me dire, est-ce que j'ai versé ça pour rien, moi, cet argent-là? Qu'est-ce qui va me rester en retour? Et le Seigneur, il connaît très, très bien l'être humain. C'est lui qui l'a fait. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes que poussière. Et il connaît nos inquiétudes. Il connaît nos faiblesses. Et c'est de toute beauté ce que le Seigneur Jésus nous rapporte ici dans Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre comme vêtements, car ce sont les païens qui recherchent sans arrêt toutes ces choses. Mais votre Père qui est au ciel sait ce que vous avez besoin. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce avant de continuer ces passages. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que c'est vrai que tu es notre Père céleste. Et notre Père céleste, ça signifie que tu n'es pas en bas, mais que ton royaume est en haut, que ton trône est là-haut, que tu règnes et tu sièges là-haut, mais que dans ta bonté infinie, dans ta grande puissance, tu contrôles, tu règnes sur tout l'univers. Et Seigneur, la chose que tu veux le plus, c'est de régner dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, que cette parole ce matin qui sort directement de la bouche de Jésus puisse être une nourriture pour nous, puisse être aussi un nettoyage pour certains d'autres. Mais Seigneur, que nous puissions sortir de ce lieu en ayant la certitude que nous t'avons rencontré, que tu as parlé à nos cœurs et que tu nous aimes et que tu veux continuer de nous faire grandir dans notre foi. Et tout cela, c'est dans le bon nom de Jésus que je te prie. Et le peuple de Dieu dit... Jésus continue ici, il dit « Préoccupez-vous du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. » Et j'aime bien ça, cette phrase en français courant. Dans la loi seconde, ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données ensuite. » Mais je trouve que dans le français courant, on dit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, c'est-à-dire l'obéissance à la parole. Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. Ça peut être une réalité pour nous. À chaque jour suffit sa peine. Il y a combien de gens qui vivent aujourd'hui en se préoccupant de ce qui va arriver demain, sans savoir s'ils vont se réveiller demain? Et Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Lorsque le Seigneur Jésus dit, ne vous inquiétez pas ou ne vous préoccupez pas ou ne soyez pas anxieux, le mot qu'il utilise signifie diviser. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que l'inquiétude, elle sème le doute dans votre esprit, cherchant à vous distraire et à diviser vos pensées de celles de Dieu. Et c'est ça le combat spirituel, en fait. Et c'est pour ça que Jésus va prendre un temps pour enseigner à ses disciples sur l'inquiétude, parce que c'est l'inquiétude, ça divise nos pensées. Ça divise nos pensées par rapport à ce que Dieu veut nous enseigner, par rapport aux pensées que nous retrouvons dans la parole de Dieu, qui sont les pensées de Dieu. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques, chapitre 1, verset 18, que celui qui doute, c'est-à-dire celui dont les pensées sont divisées, est un homme indécis et incertain dans toutes ses voies. Et il n'y a rien de plus déstabilisant que d'avoir l'esprit préoccupé. Ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un puis vous avez l'impression qu'il n'est pas là? C'est fatigant, ça, hein? Tu parles avec quelqu'un puis ouais. C'est ça, avoir l'esprit préoccupé, hein? Alors, quand vous avez l'esprit préoccupé, ça vous est déjà arrivé de lire la parole avec l'esprit préoccupé? Vous pouvez lire le nombre de chapitres que vous voulez. Si je vais vous voir après, je vous dis, écoute, fais-moi un petit résumé de ce que tu as lu. Ouais. Pourquoi? Parce que notre esprit était divisé, notre esprit était ailleurs. Et Jésus sait très bien, il sait ce que c'est quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui est préoccupé, quelqu'un qui est anxieux, il n'est pas là. Et il n'est pas disposé à recevoir la pensée de Dieu parce que son esprit est divisé. C'est méli-mélo dans sa tête. Et le Seigneur, il n'est pas en train de disputer simplement de l'homme. C'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose que vous devez apprendre à éliminer parce que l'inquiétude, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde et c'est un péché. Et je vais vous dire pourquoi après. Lorsque le Seigneur Jésus dit « Ne vous inquiétez pas » ou « Ne vous préoccupez pas », ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire « Ne planifiez rien d'avance ». Ça ne veut pas dire qu'il dit de prendre des choses à la légère et d'être insouciant au point de ne pas prévoir pour demain. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Rappelez-vous, par exemple, la sagesse de la fourmi qui prépare en été sa nourriture et qui amasse pendant la moisson de quoi manger, nous dit l'auteur des Proverbes. Paul nous rappelle une loi dans Galates, chapitre 7, 6, verset 7, une loi de l'agriculture, ce qu'un homme aura semé, eh bien, c'est ce qu'il moissonnera. Le Seigneur n'est pas en train de dire que nous ne devrions pas prendre des dispositions pour demain. Il n'est pas en train de dire que nous devrions vivre d'une façon nonchalante et agir négligemment envers ceux que nous aimons. Le Seigneur Jésus ne remet pas le fait d'être prévoyant, mais plutôt le fait de vivre en pressentant les choses. Combien il y en a qui pressentent des choses? Vous rencontrez des gens, mais c'est horrible parce que ils vivent que sur des pressentiments. Je sens qu'il va mouiller demain. Je sens qu'on va avoir un hiver très froid. Et quand on a un hiver chaud, vous dites, ben, c'est dommage, on n'a pas eu d'hiver. C'est divisé. Et le Seigneur le sait très bien. Et ce qu'il veut, c'est que notre esprit, la pensée par rapport à notre esprit, elle soit cohérente. Qu'est-ce qui pousse les gens à s'inquiéter? Ça, c'est une question que je me suis posée. J'ai trouvé quatre choses que Jésus enseigne là-dedans. Quatre choses. Dans Matthieu, chapitre 6, pour ceux qui ont leur Bible. Il dit d'abord que les gens s'inquiètent au sujet de la nourriture. Verset 25-26.
Ça ne devrait pas être un problème en Europe de s'inquiéter de la nourriture, mais il dit que les êtres humains, dans un premier temps, s'inquiètent de la nourriture, et c'est un peu normal, c'est une question de survie. On a besoin de manger pour vivre. Et en d'autres mots, les gens se demandent s'ils auront suffisamment à manger. Il y a combien de gens dans nos milieux occidentaux qui ont deux frigos, deux congèles, et qui ne sont pas encore certains qu'ils vont avoir suffisamment? Je nommerai pas les endroits. Je connais des gens qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de foi. Je suis en train de parler. C'est pas une question de foi. Mais on ne garde pas deux frigos, deux congèles pour rien quand on est tout seul. On est inquiet. Il y a quelque chose qui nous inquiète. Regardez les versets 25 et 26. Je ne lirai pas tout parce qu'il y a autre chose que la boisson là-dedans, mais je vais lire le passage qui concerne la boisson. C'est pourquoi je vous dis, dit Jésus, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson pour vivre. La vie est plus importante que la nourriture. N'est-ce pas? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Moi, ce qui me bénit en lisant ce passage-là, Dieu qui est au ciel, qui les bénit, c'est comme si on voit la main invisible de Dieu qui conduit ces oiseaux, ces créatures, vers la nourriture dont ils ont besoin. Frère, à combien plus forte raison? On est tellement plus précieux aux yeux de Dieu que les oiseaux, qu'on peut s'attendre, lui qui est fidèle en toutes choses, ne laissera jamais crever ses enfants de faim. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Si le Dieu qui a créé toutes choses prend soin des oiseaux, ne prendrait-il pas soin de vous? Ne prendrait-il pas soin de moi? Vous qui représentez tellement plus qu'un oiseau pour lui. La logique est la suivante. Quel cultivateur, oserait nourrir les poulets de sa basse-cour et laisserait mourir de faim ses enfants qu'il aime tant? Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas travailler pour obtenir notre nourriture. Si Dieu nourrit les oiseaux, il ne leur lance pas nécessairement la nourriture dans leur nid. Les oiseaux se lèvent le matin pour aller travailler. Que font les oiseaux tôt le matin? Je ne sais pas si vous avez des oiseaux dans votre jardin. Ils ont le bec par en bas et ils cherchent des vers. Ils cherchent leur nourriture. Les oiseaux, ils travaillent pour se nourrir, pour nourrir leurs enfants. Jésus dit de ne pas vous inquiéter non seulement au sujet de la nourriture et de la boisson pour vivre, mais au sujet des vêtements dont nous avons besoin pour notre corps. Et ça, Jésus dit que c'est le deuxième sujet d'inquiétude pour l'être humain. Versets 28 et 29. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous dis que même Salomon, qui a été incroyablement riche et habillé des plus beaux vêtements, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Si Dieu habille aussi l'herbe, ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, vous qui êtes autrement plus important pour Dieu que ses fleurs, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Il dit troisième chose, verset 27, les gens s'inquiètent au sujet de la durée de leur vie. Non seulement mentionne-t-il la nourriture et le vêtement, mais il parle aussi de la durée de vie. Le Seigneur parle de quelque chose qui préoccupe tellement les gens aujourd'hui. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes ou par le souci qu'il se fait, parvient à prolonger un peu la durée de sa vie? Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le fait de vous inquiéter ne prolongera jamais votre vie. Le fait que je m'inquiète si je vais être vivant demain ou après-demain, ça ne me garantit pas que je vais être vivant demain. Les gens se préoccupent de vivre le plus longtemps possible. Les gens se préoccupent de savoir jusqu'à quand ils vont vivre. Encore une fois, Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas prendre soin de nous. Il ne dit pas que nous ne devons pas faire du jogging ou du conditionnement physique. Il ne dit pas que nous ne devons pas manger sainement. Et on peut aller toujours dans les fast-foods, non? Il ne dit pas que nous devons dormir un minimum d'heures par jour. Il n'est pas en train de dire de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que le fait que d'avoir l'esprit préoccupé ne prolongera pas votre vie, au contraire. J'ai connu une dame au Québec qui ne savait pas où elle s'en allait. Bon, je vais le dire en québécois, je cherche le mot. Elle ne voulait rien savoir de l'Évangile. Eh bien, cette femme-là, elle n'était pas capable de dormir la nuit, de peur de ne pas se réveiller le lendemain. Elle était cernée jusque-là. Et elle ne réalisait même pas qu'elle ne contrôlait rien dans sa vie. Mais elle avait tellement peur de mourir parce qu'elle ne savait pas où elle allait
qu'elle s'empêchait de dormir la nuit. C'est grave. Et lorsqu'elle elle réussissait à tomber, elle avait mis son cadran, elle s'est organisée une horloge qui la réveillait à toutes les heures de peur qu'elle s'endorme. Vous pouvez être préoccupé par le fait que vous allez mourir un jour, mais vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous soucier de savoir jusqu'à quel âge vous allez vivre. C'est ce que Jésus dit ici. Il a abordé la nourriture, il a abordé le vêtement, il a abordé la durée de vie. Et maintenant, regardez, il va parler que les gens s'inquiètent de ce qui les attend le lendemain. Nous avons tous la nourriture dont nous avons besoin, nous avons de quoi vêtir, nous sommes suffisamment en santé pour pouvoir être autonomes et vivre suffisamment longtemps. Mais pour la grande majorité des gens, cela ne suffit pas, frères et sœurs. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire « c'est pas parce que j'ai tout ça aujourd'hui que ça veut dire que j'en profiterai encore demain. » Jésus dit « ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Rappelez-vous que le Seigneur ne remet pas en question le fait d'être prévoyant, mais plutôt celui de vivre dans le pressentiment. Arrêtez de sentir, arrêtez de penser que ça peut arriver. Marcher avec « Ah, je sens qu'il va arriver ici, je sens que c'est dangereux, je sens qu'il va tomber malade, je sens... » Mais il y a des gens qui ne vivent que sur le sentir, sur le ressentir, sur le pressentir. Mais on ne vit pas. Parce qu'il n'y a rien de concret dans le pressentir. Je pressens qu'il va y arriver quelque chose. On appelle ça, au Québec, on appelle ça des prophètes de malheur. Je ne sais pas si vous appelez ça des prophètes de malheur ici. Mais des gens qui pressentent souvent, on dit que c'est des prophètes de malheur. Rappelez-vous que le Seigneur ne remet pas en question le fait d'être prévoyant, mais plutôt le fait de vivre dans le ressentiment. Nous ne devons pas accumuler, frères et sœurs, les nuages qui nous attendent demain sous le soleil d'aujourd'hui. Frères et sœurs, l'inquiétude n'a jamais séché une larme. L'inquiétude n'a jamais allégé le fardeau de qui que ce soit. Et l'inquiétude n'a jamais résolu un problème. Jamais, jamais, jamais. La seule chose que nous pouvons dire au sujet de l'inquiétude, c'est inutile et nuisible, particulièrement pour celui qui est anxieux et qui a l'esprit préoccupé. La plupart des maladies aujourd'hui, c'est parce que les gens sont inquiets. C'est provoqué par l'inquiétude que les gens ont au quotidien. Une des grandes maladies aujourd'hui, c'est provoqué par l'inquiétude. Et l'inquiétude fait la même chose dans votre esprit, dans mon esprit, que les ravages peuvent faire dans une machine. Mettez du sable dans une machine et vous allez voir les ravages que ça peut faire. Et ce n'est pas les grandes choses qui font le plus de ravages dans nos vies, mais souvent les petites choses, parce que les petites choses, elles reviennent constamment et elles empoisonnent nos vies. On est porté à régler les grandes choses qui nous font du mal et laisser les petites choses parce que ça nous fait plus ou moins mal. On est capable d'endurer, on est capable d'encaisser, mais ce sont souvent celles-ci qui reviennent constamment, ces petites choses qui nous empoisonnent la vie et qui nous font mal. J'ai lu que là où un lion puissant peut détruire et tuer, ce sont quand même les toutes petites fourmis qui s'occuperont de nettoyer la carcasse, et ce, encore mieux que peut faire le lion. Ce sont les petites fourmis qui semblent grignoter notre morale, nous faire encore plus de mal et nuire à notre santé physique, psychologique et spirituelle. L'inquiétude est non seulement nuisible pour nous, mais elle est nuisible aussi pour ceux que nous côtoyons. Avez-vous déjà rencontré des gens lorsqu'ils pénètrent dans une pièce, des gens qui vous donnent l'impression que les lumières viennent de se fermer? Connaissez-vous des gens qui produisent cet effet? Moi, j'en connais quelques-uns. Lorsqu'ils sortent de la pièce, la lumière, eh bien, la pièce éclaire de nouveau et les gens retrouvent leur sourire. Il y a un mot pour ça, on les appelle les pessimistes. Non seulement ils s'inquiètent de tout et de rien, mais leur inquiétude est contagieuse. Et ils répandent cet esprit de tristesse et de découragement partout où ils passent. Et frères et sœurs, c'est difficile de vivre avec ces gens-là, parce que leur esprit est déjà divisé, et d'essayer de les ramener à un endroit où on peut recommencer à raisonner comme Dieu veut que nous raisonnions, eh bien, c'est extrêmement difficile. Avez-vous remarqué ce que le Seigneur va dire à ses disciples au verset 30 et 31? « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? » Remarquez maintenant ce qu'il ajoute. « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre comme vêtements, car ce sont les païens qui recherchent ces choses. » On va utiliser un terme moderne. Ce sont les gens du monde qui recherchent sans arrêt toutes ces choses. Mais votre Père qui est au ciel sait de quoi dont vous avez besoin. Comme votre confiance est faible, gens de peu de foi. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, est-ce que vous voyez ce que l'inquiétude envoie comme message aux gens concernant Dieu?
c'est que vous n'avez pas plus confiance en Dieu que les gens du monde ont confiance en Dieu. Quand vous critiquez les gouvernements, quand nous critiquons les gouvernements, on démontre qu'on est animé du même esprit que les gens du monde et qu'on n'a pas plus confiance que Dieu peut régler le problème des gouvernements que les gens du monde peuvent en avoir. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel point l'inquiétude est une insulte qui est faite à la face de Dieu? Est-ce que vous réalisez jusqu'à quel point le fait de s'inquiéter remet en question que Dieu est en contrôle de toutes choses? Et qu'on remet en question Romains chapitre 8, verset 28, qui dit « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Est-ce que vous voyez combien cela est un doigt qui est pointé vers le ciel et qui remet en question ses promesses en disant « Dieu, c'est pas vrai ce que tu dis, Dieu, c'est un mensonge que tu racontes. » Verset 31-32, « Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre comme vêtements, car ce sont les païens qui recherchent sans arrêt toutes ces choses. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici lorsqu'il parle des gens du monde, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Frères et sœurs, ce que notre Seigneur est en train de dire ici, c'est que lorsque nous nous inquiétons, nous réagissons comme les gens du monde. C'est humain. On est chrétien, c'est humain. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête de s'inquiéter. Parce que quand on arrête de s'inquiéter, c'est qu'on fait confiance à celui qui dirige nos vies, à celui qui est censé être en contrôle de toute notre vie. Et pour être en mesure de gagner en confiance auprès de notre Père Céleste, d'apprendre à connaître notre Père Céleste, on doit méditer et lire sa parole. C'est lui qui se dévoile à travers sa parole. C'est lui qui se dévoile à travers la personne de Jésus-Christ. Et on finit par saisir beaucoup mieux cette parole de Jésus qui dit « Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. » Et on comprend qu'il n'y a pas de sacrifice que Dieu ne peut pas faire pour sa créature. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on arrête de s'inquiéter. Parce qu'il sait que quand on s'inquiète, quand ses enfants s'inquiètent, ils sont freinés dans les dons qu'ils ont reçus. Ils sont freinés dans le ministère dans lequel ils ont été appelés. Et finalement, c'est un mauvais témoignage pour les gens du monde. Et Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur Jésus a parlé du coup du fléau ici, au début de Matthieu chapitre 6, dans les versets 25 à 31. Il nous a parlé de l'inquiétude que ça peut apporter, ce que ça a apporté dans nos vies, pardon, l'inquiétude. Il a parlé de ce qui nous amène à nous inquiéter et des effets néfastes que cela peut apporter dans notre vie. Il va maintenant nous donner le moyen qui est mis à notre disposition pour guérir ce fléau que constitue l'inquiétude. Je ne peux pas vous laisser là-dessus sur un message comme ça, sinon vous allez partir découragé. Mais le Seigneur Jésus, ce qu'il nous donne aussi, c'est qu'il nous montre que l'inquiétude, c'est un ennemi qu'on a tous en commun. C'est un ennemi qui habite même en nous. La nature humaine l'utilise pour nous diviser, pour nous décourager. Et le Seigneur, il est bon, il nous donne les moyens de chasser l'inquiétude, de prévenir les moments d'inquiétude. Verset 32, la première solution, elle est très simple. Faites confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Car ce sont les païens qui recherchent sans arrêt toutes ces choses. Et c'est vrai qu'ils cherchent sans arrêt toutes ces choses. Parce que la Bible nous dit que les gens du monde ont pour père le diable, qui est le père du mensonge, qui est meurtrier depuis le commencement. Mais regardez ce que Jésus dit. « Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Il est fidèle. » Et le Seigneur, le Père qui est au ciel, sachant ce que vous avez besoin, va répondre à vos besoins. Première solution que le Seigneur Jésus donne au verset 32, c'est « Faites confiance à votre Père qui est dans les cieux. » Vous n'avez pas rencontré encore quelqu'un, frères et sœurs, on n'a pas rencontré quelqu'un qui nous aime autant que lui. Il l'a montré à la croix. Alors, je ne développerai pas ça, on l'a développé à la Sainte-Sainte ce matin, mais il nous a tellement montré à travers son Fils combien il nous aimait. On a un Père qui est dans les cieux, on a un Père qui prend soin de ceux qui sont héritiers du royaume des cieux. C'est extraordinaire. Le royaume des cieux. Il y a le royaume de Belgique. Il y a le royaume des cieux. Un jour, le royaume de Belgique va disparaître. Le royaume des cieux est appelé à durer pour l'éternité. Et celui qui le dirige, eh bien, c'est notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Tournez maintenant rapidement dans Matthieu chapitre 10, verset 29-31. À 23 minutes. On va essayer de prendre 7 minutes et on va te lâcher. Peu importe où on sera rendu, on va arrêter. Matthieu chapitre 10, verset 29-31. Un passage où notre Seigneur traite encore du même sujet. Il dit, « Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe par terre sans que Dieu, votre Père, le veuille ou le sache. » Il ne dit pas qu'aucun moineau ne tombera pas par terre. Il ne dit pas que vous n'aurez jamais de problème. Il dit, Dieu est là, il est présent, il assiste aux funérailles de chaque moineau. Il n'y a rien qui échappe à Dieu, frères et sœurs. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que les moineaux. Essayez de vous imaginer Dieu qui gère l'univers, frères et sœurs. Moi, je suis ici, là, je vous vois. À peu près comme ça. Je suis visuel en plus, donc je peux savoir qui est là, qui n'est pas là ce matin, qui n'est pas ici ce matin. Maintenant, si je commence à me déplacer comme ça, là, mon champ de vision commence à être limité. Je commence à perdre ceux-là ici. Et si je m'en vais par là, je commence à perdre ceux-là. Et là, si je parle là, ben, je vois juste la croix. Là, vous pouvez faire des grimaces, des lunettes, je vous vois pas. Mais Dieu qui contrôle l'univers, frères et sœurs, peu importe l'essence, la position dans laquelle il se trouve, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a aucun regard qui lui échappe. Il n'y a aucune misère dans le monde qui lui échappe. Il n'y a aucun péché dans le monde qui lui échappe. Parce que moi, je suis un être humain, un pauvre être humain qui va retourner en poussière un jour, par la grâce de Dieu. Mais Dieu, il est esprit. Regardez la grandeur de l'univers. Moi, mon champ de vision se limite à l'Église. Votre champ de vision se limite à cette salle. Mais le champ de vision de Dieu, il est infini. Il est illimité. Et il voit de façon égale chaque être humain qui se trouve sur la Terre présentement. Parmi les milliards, les 7 milliards d'êtres humains qui sont sur la Terre présentement, il n'y a aucun péché que ces êtres humains commettent qui échappe à Dieu. Il n'y en a pas un qui n'a pas nécessairement bien vu, ni l'autre qui a mieux vu. Il les voit tous de façon égale. Frères et sœurs, on est tellement limités. Dieu voit tout. Il voit les animaux qui tombent, il voit les êtres humains qui tombent, il voit la souffrance humaine qui tombe, la misère sur la terre. Et pourtant, Dieu est patient envers le monde qu'il a abandonné. Et encore une fois, Dieu veut que l'Évangile soit annoncé. Et Paul dit, annoncer l'Évangile, c'est annoncer la vie éternelle. Oui, parce que c'est la vie éternelle. Voilà dans l'espérance qui transpire de l'Évangile. Repentance, conversion, vie éternelle. C'est ça l'aboutissement de l'annonce du message de l'Évangile. On est perdu, on est sauvé. On est dans les ténèbres, on tombe dans la lumière. On ne sait pas où on allait maintenant, on sait parfaitement où on s'en va. C'est extraordinaire. La première solution que Jésus donne, elle est très simple. Faire confiance à Dieu le Père. Deuxièmement, on a besoin d'une mise au point. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui s'inquiète, c'est quelqu'un dont l'esprit a besoin d'une mise au point, c'est-à-dire d'être ajusté comme un moteur de voiture, hein? Aujourd'hui, c'est plus difficile, c'est électronique. Mais à l'époque, dans les années 60, je me souviens, on ouvrait le capot, on voyait au moins le moteur. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Mais à l'époque, on voyait le moteur, c'est à peu près tout ce qu'on voyait. On voyait le gros carburateur, Daniel, hein? Il y avait un gros carburateur. Et c'était le problème, c'était souvent le problème du carburateur qui, par les vibrations du moteur, se déplaçait. Et là, on ajustait. Il fallait faire une mise au point du carburateur. Et c'est ce que Dieu a besoin de faire aussi souvent dans notre esprit, dans ceux qui sont portés à s'inquiéter. Parce que s'inquiéter, frères et sœurs, si c'est humain, c'est aussi un signe que n'a pas encore été chercher cette confiance qu'on doit avoir dans notre bon Père Céleste qui est là-haut. Ce que le Seigneur veut dire, en fait, c'est que cette personne a besoin d'un réglage au niveau de sa pensée, ou si vous préférez, qu'elle a besoin d'une mise au point, d'un retour à la case départ. Si on lui fait confiance en ce qui concerne le salut, on doit lui faire confiance en ce qui concerne la sanctification, on doit faire confiance en ce qui concerne la vie éternelle, on doit lui faire confiance dans le fait qu'il ne mentit pas. On a vu tantôt dans une prière, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est vrai qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour jouer sur les mots. La parole de Dieu est tranchante comme une épée. Et Dieu a besoin de faire une mise au point. Dire, wow, t'es déréglé un petit peu. Wow, 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 wow. Et souvent, on est déréglé. Vous savez, comme notre carburateur, on est déréglé parce que on ne fait pas une étude suivie de la parole de Dieu. Autant il y a une méthode pour ajuster un carburateur, pour régler un carburateur, autant il y a une méthode pour venir à comprendre le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce qu'il veut pour vous, ce qu'il veut pour moi, et faire en sorte que notre vie, elle soit réglée sur une seule personne, embarquée sur un seul chemin qui mène directement à la vie éternelle. Lisons encore une fois le verset, chapitre Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, dans le royaume de Dieu. Je vais aller bien plus loin que ça. J'espère que vous ne me traiterez pas de... Avant de vous chercher un travail, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, je peux vous dire que le travail va vous tomber dans les bras. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement! C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Il dit pas quand tu auras trouvé un emploi, quand tu auras trouvé une femme, quand tu auras trouvé un mari, quand tu t'auras acheté une maison, quand tu as acheté une voiture, quand ton frigo sera plein, quand ton congé débordera. Il dit, premièrement, cherchez le royaume de Dieu. En français courant, on dit, préoccupez-vous. On revient dans la pensée, dans l'esprit. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et toutes ces choses, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et toutes ces choses à laquelle vous aspirez, qui seraient bonnes pour vous et qui sont conformes à la volonté de Dieu, Dieu va vous les donner. Et il va vous les donner envers et contre tous, parce qu'il sait que vous en avez besoin. Et il va vous les donner parce que vu que vous connaissez le Père Céleste, il sait que vous allez vous en servir pour le glorifier. Amen. Cela signifie pas que nous mettons de côté, mettons Dieu de côté, cela signifie seulement que nous essayons d'ajouter. C'est d'être cohérent dans ce que je veux dire, là. Est-ce que vous savez ce que plusieurs d'entre nous faisons souvent? Nous nous préoccupons d'abord de toutes choses, premièrement, et nous nous préoccupons ensuite de Dieu. C'est ça notre problème. Et se préoccuper d'abord du royaume de Dieu, ça demande de la foi. De dire que si mes yeux sont fixés sur les choses de Dieu, les choses d'en haut, eh bien, ce qui est de la terre, Dieu va me le donner parce que je suis chrétien, mais je demeure un être humain et Dieu va pourvoir à mes besoins. Frères et sœurs, le combat spirituel, je m'adresse aux jeunes chrétiens, le combat spirituel, il est spirituel. Le malin va chercher à vous amener à vivre en fonction des choses d'en bas. Mais vous n'êtes plus un citoyen des choses d'en bas, vous êtes un citoyen des choses d'en haut. Il faut vivre en fonction des choses qui nous viennent d'en haut. Et si vous développez ça très tôt dans votre vie chrétienne, eh bien, vous pouvez être certain que Dieu va vous accompagner en toutes choses. Rapidement, je termine. La troisième solution, c'est vivre au quotidien, verset 34. Première solution, c'est de faire confiance à Dieu. Deuxième solution, c'est? Deuxième solution? Mise au point. Troisième solution, je viens de le dire, vivre au quotidien. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit dans un premier temps, faire confiance au Seigneur. Dans un deuxième temps, de se préoccuper des choses du royaume. Et dans un troisième temps, ne pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que vous savez ce que vous faites lorsque vous commencez à penser et à vous inquiéter au sujet du lendemain? Vous empruntez des problèmes qui ne sont pas prévus pour vous aujourd'hui. Il y a des gens, écoutez, qui sont prêts à sauter la journée d'aujourd'hui et commencer à essayer de penser ce qui va arriver demain et vivre en fonction de ce qui va arriver demain. On appelle ça emprunter sur la journée du lendemain. Est-ce que vous savez ce qu'est l'inquiétude? L'inquiétude, c'est l'intérêt que vous payez sur une difficulté que vous avez empruntée. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a organisé notre vie d'une façon parfaitement équilibrée. Il s'occupe de planifier les problèmes que vous allez rencontrer. Est-ce que vous savez que Dieu, frères et sœurs, vous ne serez peut-être pas d'accord, vous ne pouvez pas me lancer votre Bible puisque vous êtes des chrétiens, vous n'avez pas de tomates, vous n'avez rien, donc je suis tranquille. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que Dieu a préparé une liste de problèmes que vous allez rencontrer aujourd'hui? Est-ce que vous savez que nous ne serions jamais venus au Seigneur, que nous ne lui aurions jamais fait confiance, que nous n'aurions jamais mis notre confiance en Jésus-Christ si nous n'avions pas traversé certains problèmes ou des certaines épreuves dans notre vie? Est-ce que vous savez cela? Rappelez-vous ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden à Adam. Dieu, frères et sœurs, permet que nous traversions certaines difficultés afin de nous amener à dépendre de lui. Parce que nous sommes des êtres fragiles qui nous laissons facilement troubler. Voilà pourquoi, même si nous n'aimons pas les problèmes, ils sont bénéfiques pour nos vies. Et ils nous évitent de vivre une sécheresse spirituelle. Ne dit-on pas que trop de soleil favorise la sécheresse et l'apparition d'un désert? Et frères et sœurs, quand ça va trop bien dans nos vies chrétiennes, souvent c'est accompagné d'une sécheresse spirituelle. Et Dieu permet qu'il y ait des nuages qui viennent au-dessus de nos têtes, des petits nuages gris, des gros nuages noirs. Il permet qu'une tempête qui se lève, il permet qu'un ouragan se lève, il permet qu'une tornade s'élève. Il permet qu'on soit bousculé de tous côtés. Dans un seul but, nous amener à dépendre de lui. Et s'il nous permet, et si notre Seigneur nous permet de rencontrer certains problèmes, il faut dire aussi qu'il nous accorde la grâce nécessaire pour traverser les problèmes, peu importe leur importance. Pour chaque problème, Dieu nous accorde la grâce suffisante pour l'affronter. On n'a pas le temps de lire 1 Corinthiens 10, 13, mais vous lirez à la maison 1 Corinthiens 10, 13. Pour chaque problème, Dieu vous accorde la grâce nécessaire pour traverser, pour franchir ce problème. Dieu est bon, frères et sœurs. Et je termine. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné la grâce pour vivre la journée d'aujourd'hui et non pas celle de demain. Rappelez-vous la manne dans le désert. Vous avez pour aujourd'hui. Mais il y a des incrédules qui ramassent aussi pour demain. Et ça sentait mauvais. Dieu avait dit pour aujourd'hui, telle quantité. C'est la même chose dans le cas des problèmes. Dieu nous connaît. Il nous permet une quantité de problèmes pour aujourd'hui, mais comme la manne, il nous fait aussi la grâce de nous accorder les forces nécessaires pour passer à travers les problèmes. À chaque jour suffit sa peine. Si vous vous inquiétez, commencez à vous inquiéter pour demain. Vous avez déjà tiré les nuages pour votre journée ensoleillée. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez chamboulé cet équilibre pour votre vie. Il est écrit, Dieu ne m'a pas donné des forces pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Et je termine en lisant un passage. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Je ne comprends pas que Paul ait pu dire cette parole à travers tout ce qu'il a vécu. Il a vécu des naufrages. Il a été lapidé. On a complété contre lui. Paul avait compris que l'inquiétude, c'était un de ses pires ennemis. Ce n'était pas les pharisiens, ce n'était pas les romains, ce n'était pas les frères et sœurs en Christ, c'était l'inquiétude. L'inquiétude nous freine. Vous savez pourquoi? Est-ce que Dieu est encore avec moi aujourd'hui? Est-ce que Dieu sera encore avec moi demain? Est-ce que Dieu va m'accompagner? Est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Et ainsi de suite. Ça, c'est l'inquiétude, frères et sœurs. Et Paul dit ici, chapitre 4, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et comment? Pas en allant voir les frères et sœurs en partant comme une poule sans tête. Qu'est-ce qu'il dit? Par des prières. Priez. Suppliez. Et ensuite, avec des actions de grâce, rendez grâce à Dieu parce que vous savez que votre Père Céleste vous a entendu, qu'il va vous exaucer, qu'il va répondre à vos besoins. Et qu'est-ce qu'il dit par après? Regardez comment on chasse l'inquiétude. Il nous donne aussi, Paul, les mêmes solutions que Jésus. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La solution, elle est dans la parole. La solution est dans cette relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette relation, elle est là avec le dialogue que nous avons avec le Père Céleste jour après jour. Et là, je m'adresse aux jeunes chrétiens. Frères, les jeunes chrétiens, les jeunes bébés dans le Seigneur, prenez cette résolution de lire régulièrement, chaque jour, la parole de Dieu. Ne vous fiez pas à moi. Je suis un être humain, je ne suis pas un pape, moi je suis pas infaillible. Fiez-vous sur la parole de Dieu, elle ne vous décevra jamais. Parce que c'est Dieu qui vous parle. Si je suis dans l'Église encore aujourd'hui, après 30 ans de vie chrétienne, ce n'est pas parce que Dieu m'a conduit dans une Église, puis dans une autre, puis dans une autre. Parce que j'ai compris ce qu'on m'a dit dès le début de ma conversion. Lis la parole. Médite la parole. Je n'ai pas été élevé dans une Église, mes frères et sœurs. À 36 ans, j'ai croisé le Seigneur Jésus. 36 ans, ma vie était croisée avec le Seigneur Jésus. Méditez votre parole, je m'adresse aux jeunes chrétiens et je rappelle aussi que c'est un devoir qui est demandé aux vieux chrétiens de continuer à méditer, à lire les Écritures. Frères et sœurs, les temps qui s'en viennent vont être difficiles. Et si nos regards sont, si notre cœur n'est pas fondé dans la parole, on va vivre des moments de détresse et d'angoisse difficiles. Tout est en train de se mettre en place. La religion est rendue une risée aux yeux du monde. Vous pensez à la création. En France, on vous dit que vous avez besoin d'une thérapie si vous croyez à la création. Dans d'autres pays, Jésus est banni. Jésus est renié. Même dans des pays où on se dit chrétiens, frères et sœurs, les temps qui s'en viennent vont être difficiles. D'où cette importance de plonger dans nos regards afin de ne pas être pris par l'inquiétude et d'avoir un esprit divisé, et de ne plus savoir quoi faire, et de partir en peur dans toutes les directions. Le Seigneur est bon, il nous rappelle à chaque jour suffit sa peine. Prenons aussi la peine de lire la parole à chaque jour. Amen.